J'aimerais souhaiter à chacune, chacun d'entre vous un moment béni, que ce moment puisse vous apporter de la paix et vous permettre aussi de goûter ce beau repos en Jésus-Christ. J'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu différent qu'à l'habitude. Je ne vais pas travailler un texte avec vous, mais je vais faire une flânerie sur le sentier biblique. Je vais me promener avec vous et ramasser 12 cailloux. Vous savez, moi j'aime bien quand je me promène avec mon épouse aussi, on aime bien les beaux cailloux et quand on se promène, on ramène ses trophées. Hein. On joue au petit pousset. Hein. Vous savez, le petit pousset qui lui avait des cailloux, non pas pour le plaisir de prendre des cailloux, mais pour ne pas se perdre. Et c'est aussi pour cela que j'ai envie de glaner sur ce chemin ces 12 cailloux pour ne pas perdre notre juste voie. Et pour cela, ces 12 cailloux, vous allez voir, ce sont tous des cailloux précieux qui ont chacun leur couleur, comme des pierres précieuses aux couleurs de l'au-delà. Et je ne vais pas trop les commenter, mais j'aimerais vous les partager, tout simplement, vous puissiez partir avec ces cailloux, justement, pour ne pas perdre vos chemins par la suite. Et la première pierre, je vais la ramasser dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Et au verset 16, c'est une pierre d'un blanc rose tendre, un petit peu comme un bébé rose tendre qui reflète l'aube de la vie et les matins de la promesse. Vous savez, ces matins avec un beau rose à l'horizon. C'est une invitation à croquer la vie et c'est une parole de Dieu qu'on trouve au verset 16. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'être humain. Mange de tous les arbres. Dans beaucoup de nos traditions, il est dit tu pourras, mais c'est un ordre. Mange. Mange de tous les arbres du jardin. Mais ne mange pas l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce à dire? Alors déjà, je trouve très intéressant, c'est le premier commandement de toute la Bible et de toute l'histoire même de l'humanité. Donc c'est le premier en importance. Tous les commandements de Dieu vont découler de ce commandement-là. Or, qu'est-ce qu'il nous dit, ce commandement? Moi, ça me touche particulièrement. C'est pas un interdit d'abord, c'est une invitation. Mange. Mange de tous les arbres. C'est-à-dire une invitation à consommer, à goûter le bonheur de cette vie, à manger de tous les arbres, c'est-à-dire de goûter cette vie dans la diversité que Dieu nous donne. La diversité. Alors vous allez dire, oui, mais il y a quand même un interdit. Oui. Mange de tout, s'il te plaît. Diversifiez votre approche et ce saveur de la vie. Mais attention, il y a un fruit qu'il ne faut pas consommer. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce que ce fruit? Tout simplement, j'ai envie de vous dire, toutes les fois où je prétends être le détenteur de la connaissance de ce qui est bien ou mal, toutes les fois où je prétends détenir, moi, les clés de la vérité, je consomme du fruit défendu. Conséquence, ce fruit de la prétention des détentions de la vérité, d'ailleurs quand on détient quelque chose, c'est un geôlier qui détient un captif. Hein. Est-ce que la vérité de Dieu peut être captive? Non, bien entendu, puisque la vérité c'est Dieu lui-même. Eh bien, toutes les fois où j'ai cette prétention, je consomme du fruit défendu et je sème la mort. Pourquoi? Parce que je me mets à juger tous ceux qui n'ont pas cette même vérité et qui ignore la vérité que moi je détiens. Je juge, je condamne, et ça ne va pas manquer. On sait très bien que du coup, Ève a accusé son mari, le mari, non, c'est l'inverse, c'est le mari qui accuse la femme, excusez-moi, et puis la femme du coup va accuser Dieu lui-même, puisqu'elle va dire c'est toi qui as créé ce serpent qui nous a tentés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils se sentent nus, culpabilité, donc mort. Voilà donc cette première pierre qui nous est donné de Dieu. Attention, ne prenez pas la place de Dieu, et bonne nouvelle, elle est déjà prise. Et nous allons poursuivre notre petit chemin, Et nous arrivons dans le livre de la Genèse, toujours, au chapitre 9. Et j'aimerais qu'on lise ensemble quelques versets. C'est la deuxième pierre d'un vers tendre, le vers tendre de l'espérance, le printemps naissant. Genèse 9, verset 8 et suivant. « Quant à moi, dit Dieu, j'établis mon alliance avec vous. » Et remarquez, dans ce passage, c'est admirable, on parle toujours d'une alliance que Dieu fait avec nous. Il ne nous demande même pas de faire alliance avec lui, mais il nous l'offre, cette alliance. Ce n'est pas du donnant-donnant, je vous l'offre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle tient, cette alliance. Comme Dieu a fait alliance avec Abraham, Abraham n'a cessé de rompre l'alliance, mais elle tient l'alliance. Parce qu'elle ne dépend pas de nous, elle dépend de lui. C'est Dieu seul qui fait alliance avec nous. C'est en tout cas ce que dit ici le texte. Donc, quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, aussi bien tous les animaux qui sont autour de vous. J'établis une alliance universelle, diversifiée pour tous et pour l'éternité. Voilà ce que dit Dieu. Elle est promeuse de promesses dans un champ dévasté où l'avenir ne semble plus possible puisque le monde a été dévasté par le déluge. Et voici que pourtant un olivier de promesses et d'espérance se dresse dans ce monde désertique. Et voici qu'une colombe, porteuse de paix, amène un rameau d'olivier qui nous ouvre l'espérance et le ciel s'ouvre et Dieu parle. Et encore une fois, pour ouvrir l'avenir. Dieu fait alliance avec tout être vivant et il donne un signe. Et quel est le signe de cette alliance? L'arc-en-ciel, oui. L'arc-en-ciel. Vous avez déjà réfléchi, quel est le phénomène de l'arc-en-ciel? Il n'y a pas besoin d'être un savant en physique pour comprendre ce que c'est que l'arc-en-ciel. C'est les gouttelettes d'eau qui servent de prisme et la lumière traverse ces prismes et du coup se révèle dans la diversité des sept couleurs. C'est la lumière qui se révèle dans la diversité. C'est pas pour rien que Dieu donne l'arc-en-ciel comme signe de l'alliance, c'est-à-dire qu'au cœur de l'alliance, Dieu veut qu'on accueille la notion de diversité. C'est pas moi qui le dis, c'est l'image que Dieu lui-même nous donne. Cet arc, d'ailleurs dans le Japon ancien, c'est très intéressant, dans le japonais, on appelle ça le pont flottant du ciel. Le pont flottant du ciel, c'est un pont que Dieu nous donne, c'est-à-dire un pont relationnel dans l'accueil de la diversité de chacune et chacun. En chinois, on l'appelle la fente du ciel, c'est-à-dire que c'est par justement cette expression de la diversité qu'on va accéder à ce ciel qui est la présence même de Dieu. C'est un arc, en français. Un arc, c'est un objet qui est bandé dans le ciel comme pour signifier que Dieu est venu et qu'il cherche à propulser la naissance d'une nouvelle humanité dans cet univers. C'est que la vie peut jaillir de cet arc tendu, un petit peu comme le ventre d'une femme qui est sur le point d'accoucher la vie naissante. Mais surtout, et je réinsiste et je termine par là, l'arc-en-ciel révèle les couleurs de la lumière dans la diversité. Et Dieu exprime son rêve. Dieu fait un rêve de voir une humanité, et je traduis littéralement le texte hébreu, qui grouille à la surface de la terre. Donc un monde diversifié qui se répand et qui ne se recentre pas dans un endroit précis, mais qui grouille à la surface de la terre. Voilà la deuxième pierre. Troisième pierre. Sur les 12 que nous allons collecter. Eh bien, c'est celle de Genèse 11. On l'a déjà lue. Tu viens de la lire à l'instant. C'est une pierre, j'ai envie de dire, bleu orage, d'un ciel qui se déchire. Toute la terre, nous dit le texte, parle la même langue. Vous allez dire drôlement pratique. Mais en plus, le texte précise « et avec les mêmes mots ». Eh bien, nous voilà très loin de l'arc-en-ciel, de la diversité. Imaginez une société qui a la même vision des choses, qui a les mêmes goûts, qui d'un bout à l'autre sont identiques. Vous allez dire, mais c'est fantastique. Ben non. Je trouve absolument pas, et merci d'avoir justement illustré tout cela, ce besoin de la complémentarité, de la différence. Imaginez si tout un corps n'était qu'un seul œil, ça serait un tableau à la Jérôme Bosch, hein. Ça serait un monstre. Mais imaginez, ou un corps où il y a un pied d'un côté, un œil de l'autre, etc. Excusez-moi le détail, mais c'est un cadavre dispersé, c'est une autre atrocité aussi. Cette unité dans la diversité. Le problème, c'est qu'on confond souvent l'unité et l'uniformité. Et Dieu ne veut pas de l'uniformité. Il veut la diversité. Et ce texte est là pour nous le dire avec force. Vous voyez, cette unité, fausse unité, d'une humanité qui crée une tour qui s'élève jusqu'à Dieu. Vous savez que Babel, ça veut dire, non pas confusion comme le texte le dit, vous allez comprendre après pourquoi. Babel veut dire porte de Dieu. Et c'est une expression autrefois dans l'Antiquité, quand on voulait dire qu'on cherchait à provoquer quelqu'un pour prendre sa place et provoquer la guerre, on allait à la porte de cette personne, comme pour lui lancer un défi. Babel veut dire la porte de Dieu. Ça veut dire que Babel, cette tour qui cherche à s'élever jusqu'à Dieu, est en réalité non pas une tour de sainteté, mais une tour d'arrogance, qui cherche à être Dieu à la place de Dieu, encore une fois. Et Dieu entend cette volonté de s'élever par arrogance jusqu'à Dieu comme pour prendre sa place et de vouloir prôner une pensée unique avec une même langue, avec les mêmes mots. Et Dieu dit, mais c'est que le commencement de leurs œuvres. C'est-à-dire cette arrogance-là, mais où vont-ils aller? Donc Dieu fait stopper net cette tour qui a l'apparence de la sainteté, mais qui n'est qu'une arrogance. Et Dieu détruit tout cela, et du coup, provoquant la diversité des langues, l'humanité est obligée de se répandre à la surface de la terre. Enfin, cet acte de Dieu n'est pas une malédiction, mais une bénédiction, pour que l'humanité se mette de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, à grouiller à la surface de la terre, dans la conscience des différences qui font toute la richesse et la beauté de notre humanité comme un arc-en-ciel est magnifique. Dieu s'inquiète. Pourquoi s'inquiète-t-il de la pensée unique? Parce que c'est ça finalement Babel. C'est la tentation de la pensée unique. Et quand on ne pense pas comme tout le monde doit penser, alors on est non conforme. Et ça, c'est la prétention de Babel, que Dieu désapprouve totalement. Il défusionne cette société qui confond l'unité avec l'uniformité, parce que la fusion mène à la confusion. Et Balel veut dire confusion. Et comme les Juifs aiment jouer sur les mots, Babel ressemble très fort à Balel, et c'est là qu'il y a eu la monstre confusion, nous dit le texte. Quatrième pierre. Rassurez-vous, il n'y aura pas un petit examen à la fin pour vous rappeler chacune des pierres. Prenez toutes celles qui vous font du bien. Si c'est les 12, tant mieux, mais prenez celles qui vous restent. Jérémie, chapitre 2. Alors, on est beaucoup plus loin. C'est une pierre éclatante. Je dirais une pierre aussi acide, un petit peu, qui lui, comme un avertissement. C'est une parole de Dieu, de Jérémie, chapitre 2, verset 13, où Dieu exprime sa tristesse. Car mon peuple a doublement mal agi. Deux erreurs que Dieu dénonce. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Et ils se sont creusés des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Magnifique et terrible métaphore qui dénonce deux erreurs. Première, mépriser la source vive. Une source vive, c'est quoi? C'est une source vivante. C'est une source qui se renouvelle. C'est une source qui circule. C'est une source qu'on ne peut pas arrêter. C'est une source qu'on ne peut pas enfermer, sinon c'est une mare. Et vous savez qu'une mare stagnante, au bout d'un moment, elle s'évapore et elle devient impropre. Non, laissons le cours d'eau circuler. Arrêtons de vouloir être propriétaire de la source. La source, elle doit circuler et poursuivre son chemin. Comme notre pensée, comme notre conception que l'on peut avoir même de Dieu, doit rester une source vive. Et le problème, deuxième problème, vous cherchez à l'enfermer dans des citernes, c'est-à-dire vous voulez la cloisonner, comme cela vous êtes un contenant, et il y a le contenu de Dieu, et vous êtes le détenteur de cette vérité divine. Et Dieu dit, ben non, c'est une erreur, parce que vous oubliez que vos citernes, elles sont quand même fissurées. Donc il vous reste quoi? Du vide. Vous devenez détenteur dramatique du vide. Et c'est un dramatique jugement d'une église qui se croit être propriétaire et détentrice de toute la vérité. Non, vous ne buvez plus à une source d'eau vive et vous cherchez à l'enfermer dans une citerne qui est crevassée et qui ne tient pas l'eau, dit Dieu au peuple. Et puis, une cinquième pierre. Et cette fois, on la trouve dans Ézéchiel. Ézéchiel, là je vais vous la raconter, parce qu'elle est un petit peu longue, mais vous pourrez la relire tranquillement cet après-midi. C'est un rêve assez étrange, très peu connu, Ézéchiel 47, qui nous parle d'une source aussi. C'est pour ça qu'elle est transparente, d'un bleu ciel, comme la source de la vie et la source du temple. Alors je vous raconte juste l'histoire. Ézéchiel rêve. Et qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve qu'un ange l'amène mystérieusement devant la porte principale du temple. Mais c'est pas le temple de Jérusalem, c'est un temple qui correspond pas aux indications de l'Ancien Testament. Donc c'est un temple un petit peu surprenant, c'est le temple du rêve. Et voilà que Ézéchiel est conduit par l'ange à la porte du temple et qu'est-ce qu'il voit? Il y a une fuite d'eau qui dégouline le long des marches du temple et qui s'éloigne plus loin. Et l'ange dit, parce que moi si j'étais Ézéchiel, la première chose j'ai dit, oula, il y a une fuite, on va vite aller voir d'où vient la fuite. Et non, l'ange lui dit, non, ne rentre pas, suis la source qui est sortie du temple. Et puis l'ange l'invite à marcher, environ 500 mètres, et au bout de 500 mètres, l'ange lui dit, vas-y, traverse. Et puis, il traverse cette eau, il se moule les pieds, il a de l'eau jusqu'à la cheville, et puis il fait aller-retour d'une rive à l'autre de ce petit dégoulinot d'eau. Et puis, l'ange lui dit, vas-y, continue. 500 mètres plus loin, l'ange lui dit, stop, traverse. Et Ézéchiel traverse et il a de l'eau jusqu'aux genoux. Parce que le petit ruisseau devient petit à petit rivière. Et de nouveau, il passe d'une rive à l'autre. Et puis, il continue. Et comme ça, d'étape en étape, tous les 500 mètres, l'ange le fait traverser pour aller sur l'autre rive. Et au bout d'un moment, c'est devenu un fleuve, un torrent qui est profond, qui gronde et qui est rapide et qui lui fait peur. Et voilà que Ézéchiel veut traverser. Et puis, il a peur parce qu'il ne sait pas nager, parce qu'il va se noyer même. Et l'ange l'invite encore et l'aide à traverser d'une rive à l'autre. Et c'est là que quand il panique, l'ange lui dit, lève les yeux, regarde, qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce qu'Ézéchiel voit? Plein d'arbres sur les rives de ce fleuve. Des arbres majestueux, magnifiques, qui portent la vie, comme maintenant les arbres sont en train de bourgeonner et explosent de leurs feuilles. Eh bien, tous ces arbres ont des feuilles qui, nous dit le texte, et des fruits qui portent même des vertus de guérison. Il invite Ézéchiel à s'émerveiller de tout ce qu'il y a autour de lui qu'il ignorait complètement. Et l'ange lui dit, mais continue, va vers la mer qui symbolise dans la Bible les peuples, le monde, qui nous fait peur, parce qu'on peut s'y laisser engloutir, cette mer qui souvent est agitée, Jésus qui marche à la surface de la mer, vous connaissez tous ces textes symboliques. Et voilà qu'au moment où il arrive vers la mer, qu'est-ce qu'il découvre, Ézéchiel? Que la mer grouille de poissons de toutes les espèces. des poissons diversifiés, une fois encore, qui sont nourris de cette source qui est sortie du temple et qui en vivent dans la diversité. Et le texte, encore une fois en hébreu, dit qu'ils grouillent. On retrouve de nouveau l'expression de la Genèse. Mais, et je m'arrête là pour cette pierre, petit détail, l'ange dit à Ézéchiel, s'il te plaît, n'assainis pas les rives de ce fleuve et de la mer, parce que si tu vas assainir, le sel ne se révélera pas. Le sel, c'est la richesse. D'ailleurs, le mot salaire vient de sel. Donc, et Jésus disait, vous êtes le sel de la terre. Hein? Donc, qu'est-ce que ce rêve nous fait comprendre ? C'est qu'il faut apprendre à s'émerveiller en suivant le cours de ce fleuve sans tout comprendre. Qu'il faut apprendre à changer de rive régulièrement pour changer notre angle de vision, pour ne pas être toujours dans la pensée unique. Et qu'il faut apprendre aussi à être désécurisé, parce que c'est parfois désécurisant que de changer notre angle de vision. On peut avoir peur d'être englouti par ce fleuve. Non, dit l'ange, n'aie pas peur, je suis avec toi, je te permettrai pas d'être englouti. Mais par contre, diversifie ton angle de vision. Accueille cette vie diversifiée qu'il y a autour de toi et même dans ce monde. Et s'il te plaît, une recommandation, n'assainis pas ce monde parce que tu te crois être justicier, parce que tu crois que tu vas pouvoir porter la vérité et que toi seul la détiens, et du coup tu vas assécher, tu vas semer la terreur autour de toi et finalement le sel ne pourra pas se révéler. Ce n'est pas ton rôle d'assainir, c'est pas ton rôle de prendre celui de Dieu. Laisse faire Dieu, toi émerveille-toi et accueille la diversité et la beauté de cette vie. Et puis nous arrivons maintenant à la sixième pierre. Et là, on est dans le Nouveau Testament. Comme on dit, si je devais aller dans une île déserte avec un seul chapitre de ma Bible, c'est celui-là que je prendrais. C'est l'évangile de Jean au chapitre 8. C'est une pierre rouge, sang comme la violence du sang qui coule, mais aussi sang comme la vie. Et rouge comme l'amour. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, vous connaissez cette rencontre de Jésus avec le peuple, avec les docteurs de la loi qui viennent interrompre Jésus et qui jettent à ses pieds une femme surprise en flagrant délit d'adultère et qui demande, selon la loi de Moïse, à lapider une telle femme. Vous connaissez tout cet épisode. J'aimerais juste vous dire une chose. Bon, ce sont les docteurs de la loi qui sont, eux, les détenteurs de cette norme, de cette vérité, de la conformité de la parole de Dieu. Et voilà une femme qui est tout sauf conforme, hein, qui est dans l'adultère. Bon, c'est vrai que les pères de l'Église nous disaient, parmi les docteurs de la loi, il y avait celui qui avait commis l'adultère avec la femme, qui aurait dû être aussi condamné à mort. Mais comme vous savez, quand on pointe un doigt sur quelqu'un, il y a toujours trois doigts qui sont pointés vers soi, ce qui montre qu'il n'y a pas plus coupable que ceux qui accusent. Voilà, toujours est-il que cette femme est jetée aux pieds de Jésus. Et Jésus, que devient-il ? Eh bien, le très haut devient le très bas. Et le très très bas, puisqu'il se met au niveau de la femme, qui est là le nez plaqué contre la poussière de la terre, attendant le jugement des religieux et attendant la mort. Et que fait Jésus ? Il trace de son doigt une écriture dans la poussière de la terre. On aimerait bien savoir ce qu'il a écrit, c'est la seule écriture, mais on ne le sait pas. Et c'est très bien. Je vais vous dire pourquoi. Ce geste de Jésus devant les docteurs de la loi est le geste le plus blasphémateur qui soit. Ça peut peut-être vous surprendre. Jésus est en train de parodier le doigt de Dieu. Car qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a écrit la loi dans la pierre. Une loi immuable, universelle. Et que s'est-il passé ? Les docteurs de la loi sont devenus durs, rigides, froids, comme la pierre, et sont prêts même à tuer, sans comprendre qu'ils déshonorent cette loi même. Ils ont perverti la loi de Dieu et ils sont devenus froids, durs et rigides comme la pierre. Et tout à coup, Jésus, devant les docteurs de la loi, écrit avec son doigt dans la poussière de la terre. Geste blasphémateur pour eux. C'est comme si Jésus disait « Oui, nous avons écrit dans la pierre, mais le temps est venu de rentrer dans une autre alliance, qui est une alliance du cœur. » Et cette fois, la loi de Dieu ne s'inscrit plus dans la pierre, mais dans la chair, parce que la terre, c'est l'humus. Nous sommes humains, humus. Nous sommes tirés de la terre, nous retournons à la terre. C'est notre fragilité, c'est notre humanité, la terre. Et Jésus est en train de dire au docteur de la loi, maintenant il est temps qu'on comprenne que la nouvelle alliance, c'est plus cette loi rigide et dure et froide, parce que vous êtes venus ainsi. Et l'apôtre Paul, iconoclaste, dira dans l'épître aux Corinthiens, la loi, celle qui a été écrite sur des tables de pierre, est devenue porteuse de mort maintenant. Et il est temps de rentrer dans une autre dynamique, qui est une dynamique de vie, et qui rejoint l'humain dans son humanité. Et c'est pourquoi Jésus inscrit une loi dans la terre. Et c'est alors qu'il y a celui qui se croit, c'est moi qui rajoute, qui se croit non coupable, jette le premier la pierre. Et c'est là qu'heureusement l'intelligence leur revient et qu'ils partent tous, les uns après les autres, à commencer par les plus âgés, les plus sages. Voilà donc, ils étaient devenus durs parce que la loi que Jésus incarne est une loi humaine qui rejoint la personne dans sa circonstance de vie et qui permet de rencontrer l'individu là où elle est, dans le respect de son histoire à elle, et non plus une histoire de tous où tout le monde doit être coulé dans un même moule. Septième pierre. Une pierre bigarrée aux couleurs de l'arc-en-ciel, et nous la trouvons dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, verset 40. Je l'évoque, vous pouvez la lire de votre côté. Voilà qu'un disciple vient voir Jésus et c'est Jean. Il est fier de son acte de bravoure. Il dit, Seigneur, on vient de voir un homme qui accomplit des miracles en ton nom. Et visiblement ça marche. Alors que juste avant, au début du chapitre, ils ont essayé d'accomplir un miracle et ça n'a pas marché. Parce qu'ils ont oublié de prier d'ailleurs, entre parenthèses. Mais voilà qu'un homme qui n'est pas disciple de Jésus, qui accomplit des miracles et qui le fait au nom même du Christ. Et ça marche. Alors Jean tout de suite dit à Jésus, t'inquiète pas, on l'a neutralisé. Sous-entendu, où va-t-on si des gens qui ne font pas partie de notre groupe font des choses magnifiques? Surtout pas. Vous savez, il y a quelques années en Suisse, la Ligue pour la lecture de la Bible a organisé une grande exposition où ils ont reconstruit le tabernacle et plusieurs scènes de l'Ancien Testament, tabernacle grandeur nature, dans la région de Lausanne. Il y a un projet d'exposition qui était magnifique et qui a été magnifique. Et le responsable de cette organisation m'a demandé de collaborer avec lui pour l'élaboration de cette exposition. Eh bien, je dois le dire à ma honte, beaucoup de nos églises adventistes en Suisse ont réagi en disant « mais c'est pas normal, ils sont pas adventistes, donc c'est à nous à faire, c'est pas, on n'a pas à collaborer avec eux ». Et j'ai dû me fâcher en disant, et j'ai repris la parole de Jésus, mais qui n'est pas contre nous est pour nous. Depuis quand voit-on partout autour de nous des ennemis? Jésus nous dit, notre tâche à nous, c'est de voir tous ceux qui ne sont pas contre nous. Donc, faites-en des alliés de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une belle pierre. Bigarrée. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Huitième pierre, on arrive au bout. Matthieu 21, c'est une pierre un peu verte, mais d'un vert qui fait grincer des dents, couleur un petit peu de l'amertume aussi. Je vous le lis, 28 à 32. Non, c'est pas du tout ça. Je me trompe, c'est... Attendez, non, c'est le fameux passage. Oui, tout à fait, on y est. Excusez-moi. Je vous lis le verset 31, deuxième partie. Je vous le dis, les collecteurs d'impôts, ou dans d'autres versions des évangiles, c'est les voleurs, et les prostituées vous devancent dans le royaume des cieux. C'est un texte qui fait un petit peu grincer des dents, Parce que notez bien qu'il n'est pas dit que les prostituées et les voleurs repentis vous devanceront. Mais aujourd'hui, même les voleurs, même ces gens qui ont des mœurs dissolues, condamnables, bien ils vous devancent. Comment comprendre cela? Une fois de plus, Jésus provoque et nous parle d'un renversement complet de nos critères et de nos jugements péremptoires parfois. Les premiers sont les derniers, disait-il. Les derniers sont les premiers. Les riches, ils sont pauvres. Les pauvres, ils sont riches. Les purs, ils sont pas dignes. Mais les impurs, eux, sont dignes. Donc Jésus fait éclater nos cloisons de confort et de conformité, voyant chez les autres, finalement, qu'on a tendance à juger et à condamner, voyant des êtres aimés de Dieu. Et peut-être que ces gens-là, aux mœurs dissolues, quand ils ont compris que Dieu les accueille et les aime, sont bien plus proches de lui. Vous savez, il y a une vieille histoire juive, très courte. Les Juifs racontent que nous sommes tous reliés à Dieu comme d'un cordon ombilical, d'un fil qui nous relie à Dieu. Et quand on pêche, le fil est rompu. Et qu'est-ce que fait Dieu? Ben, il rattrape vite le morceau, puis il fait un nœud. Moralité, plus on a péché, plus on est proche de lui, parce qu'il y a plus de nœuds. Mais c'est comme ça que je comprends, les prostituées, les voleurs vous devancent. C'est-à-dire que quand ils ont compris que Dieu les aime, malgré tout ce qu'ils ont fait de faux, mais que Dieu est un Dieu d'accueil et d'amour, ça les bouleverse et ils sont bien plus proches que les propres justes qui se croient purs et parfaits. Donc encore une fois, il fait éclater nos cloisons confortables où l'on croit que tout le monde doit être absolument dans cette conformité pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. 9e Pierre, Matthieu 13, je vous la raconte, c'est la parabole qu'on appelle dans nos bibles de la mauvaise herbe. Je raconte juste, voilà un maître, dit Jésus, qui sème du bon blé dans son champ. Et pendant la nuit, un petit malin, non pas très malin, très méchant en tout cas, qui vient semer de la mauvaise herbe. Et voilà que la mauvaise herbe et le bon blé poussent en même temps. Et puis quand les serviteurs horrifiés voient ça, ils vont voir le maître et lui disent « Mais c'est qui a fait ça ?» Et le maître dit tout de suite « Attendez, c'est un ennemi. » Donc arrêtez de croire que le mal vient de Dieu. Rien à voir. Dieu est dans le bon, dans le juste et dans le beau. « Mais alors, disent-ils, veux-tu qu'on aille arracher tout cela ?» Et le maître, donc c'est Jésus qui parle, dit « Surtout pas !» Parce qu'en arrachant toute cette mauvaise herbe, vous allez de toute façon fouler aux pieds la bonne herbe et vous allez tout détruire. Donc c'est l'affaire du moissonneur. Laissez cette cohabitation entre le bon et le mauvais et ne vous croyez pas investi par Dieu pour aller trier et éliminer la mauvaise herbe. C'est pas votre rôle, encore une fois, c'est le rôle de Dieu et la place est prise, je le rappelle. C'est extraordinaire cette parabole. Et nous, on veut toujours, même dans nos vies, éliminer tout ce qu'il y a de mauvais. Mais plus on combat nos ténèbres et tout ce qu'il y a de mauvais en nous, bah plus on le rend présent, vous le savez bien. Et plus on veut combattre chez les autres tout ce qu'il y a de mauvais en eux, plus finalement on est en train de détruire tout ce qu'il y avait de bon. Et dans un couple, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui veut que l'autre ne soit qu'un trésor. Jésus, il a dit, vous prenez le champ avec, s'il vous plaît. Et puis, la même chose, on veut éliminer la mauvaise herbe. Maintenant, dit Jésus, vous allez détruire tout ce qu'il y a de bon. Occupez-vous du bon. Et vous savez quoi? L'ironie cruelle... Dans vos Bibles, je suis sûr que vous avez un titre sur ce passage qui est la mauvaise herbe. Or Jésus est en train de dire, arrêtez de voir la mauvaise herbe, voyez le bon. Pourquoi nos traducteurs n'ont pas mis comme titre la parabole du bon blé? Non, ils mettent la parabole de la mauvaise herbe. Parce qu'on voit que ça, et on voit que des ennemis encore une fois autour de nous. Accueillez le bon et la diversité qui nous entoure. 10e Pierre, Jean, chapitre 4... Verset 24, eh bien vous connaissez ce passage que je vais juste évoquer, c'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Oh, une femme qui n'est pas très conforme, parce que d'une part, c'est une femme, donc on ne parle pas à une femme, n'est-ce pas? En plus, elle est samaritaine, et un juif ne parle pas aux samaritains. Et en plus, elle a eu 6 maris, et le dernier qui est là, elle vit en concubinage avec quelqu'un qui n'est pas son mari, mais qui est celui d'un autre, celle d'une autre femme. Donc, elle est de loin pas dans la belle conformité. Elle est immorale. Et Jésus, comment se révèle-t-il à elle? Comme un mendiant qui a soif et qui lui demande à boire. C'est-à-dire que cette femme immorale, elle peut encore apporter quelque chose à Jésus qui va lui faire du bien. Jésus veut tisser une relation. D'ailleurs, elle est tellement choquée parce que ça se fait pas qu'un juif boive à la même coupe avec une samaritaine. Et Jésus, lui, veut boire à la même coupe parce qu'il veut communier avec cette femme qui est non conforme. Et puis tout à coup, elle lui dit, ah, je vois que tu es un prophète. Dis donc, moi j'ai une grande question qui m'intéresse. Où est-ce que je vais adorer Dieu? Est-ce que c'est au temple de Jérusalem comme les juifs? Et est-ce que c'est au mont Garizim comme nous les samaritains? On pourrait dire aujourd'hui, où est-ce que je vais trouver le vrai Dieu? Est-ce que c'est exclusivement chez les adventistes? Est-ce que c'est chez les évangéliques? Est-ce que c'est chez les catholiques? Est-ce que c'est chez... Et quelle est la réponse de Jésus? Non. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ah bon? Non, parce que Dieu ne se trouve pas dans un édifice. Et quand on l'a perdu dans son cœur, ça ne sert à rien d'aller chercher dans un édifice. Où est Dieu, dit-il? On l'adore aujourd'hui dans le souffle, l'esprit. Vous avez jamais mis du souffle en boîte? Il n'y a plus rien, hein? Et en vérité! Mais vous savez quel est le mot vérité que Jésus utilise? Je ne veux pas jouer au savant que je ne suis pas, mais le mot grec, c'est « aletheia ». Qu'on traduit toujours par vérité. Je suis chemin, vérité, vie. Aletheia. Qu'est-ce qu'aletheia? En grec, le A au début d'un mot, c'est la négation de ce qui suit. Par exemple, en français, quand quelqu'un n'est pas sociable, il est asociable. Aletheia, ça veut dire l'inverse de l'aletheia. Et vous savez ce qu'a donné l'aletheia en français? Léthargie. La vérité dont parle Jésus, c'est pas un dogme. C'est une attitude d'attention à l'autre, d'attention à la vie, d'éveil, où on arrête de s'endormir sur nos lauriers et sur nos conceptions. Le moment est venu, dit Jésus à cette femme, c'est plus dans une église, un bâtiment qu'on trouve Dieu. C'est en soi, parce qu'il est source de vie qui ne demande qu'à jaillir hors de nous. C'est dans ce souffle qui ne s'enferme pas dans des boîtes. Et c'est dans la vigilance, dans l'attention. C'est pourquoi il dit, je suis chemin, la mise en marche. Je suis vigilance, attention, c'est d'en dire dans la vie. Voilà qui est Jésus, celui qui nous réveille et qui nous empêche de tourner en rond dans notre petit tour de Babel. Voilà. Et puis j'arrive aux deux dernières perles. Apocalypse 18, verset 4. Et là, on a été tout un trimestre dans l'Apocalypse, je ne vais pas m'y appesantir trop, mais quand même, peut-être quelque chose qui va vous surprendre, que j'aimerais vous partager. J'entendis une voix qui venait du ciel, donc, disant, sortez du milieu d'elle, c'est-à-dire de Babel, ou Babylone. Vous savez que Babylone ou Babel, c'est la même chose, hein. Babel, c'est en hébreu et Babylone, c'est en grec. Sortez de Babel, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés, que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel. Ça fait allusion, évidemment, à la tour de Babel. C'est monté jusqu'à Dieu, cette prétention, et Dieu a détruit cette tour de Babel. Sortez de Babel, mon peuple! Ça veut dire que, on l'a longtemps enseigné, on le dit, et j'aimerais nuancer un tout petit peu, et ce qu'on dit d'habitude, et peut-être mes propos sont à nuancer aussi, mais combien de fois on a dit Babel, Babylone? C'est tous ces gens-là de l'extérieur, il faut les quitter. Il faut partir, il faut monter dans notre montagne, parce que nous sommes l'église du reste, alors on va créer notre petit microcosme, donc on va créer une tour, et on va s'élever dans la sainteté jusqu'à Dieu, et on réalise pas qu'en disant ça, on est en train justement de refaire Babel. Sortez de Babel, mon peuple, c'est-à-dire... Arrêtez cette logique d'arrogance et cette volonté d'uniformité de la pensée unique qui fait que vous êtes fier, orgueilleux d'être le seul détenteur de la vérité, de vous élever comme ça jusqu'à la place de Dieu. Mais vous prenez Dieu la place de Dieu et Dieu a détruit cette Babel. Donc sortez de Babel, mon peuple, sortez de cette arrogance de tous ces systèmes qui se croient détenteurs de la vérité. Et puis ainsi, tout à coup, on arrive à la dernière prière, et celle-là, elle est blanche, éclatante, porteuse de promesses, d'avenir comme une colombe, blanche comme la lumière d'un jour neuf, et nous terminerons par celle-là. Jean 14, c'est une parole de Jésus. Que votre cœur cesse de se troubler. N'ayez pas peur. Jésus, sans arrêt, disait, arrêtez d'avoir peur. Combien de fois on a cru que pour l'évangélisation, il fallait faire peur aux gens, hein? Et combien de fois même dans l'histoire du christianisme, on faisait peur parce qu'il y a l'enfer, parce qu'il y a le purgatoire, parce qu'il y a ceci, il y a les foudres éternelles, et attention aux péchés, attention on va faire des péchés, la liste des péchés, etc. Mais non, la peur, le règne de la terreur. N'ayez pas peur, ne cesse de dire Jésus. Mettez votre foi en Dieu, votre confiance en lui. Mettez votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Non seulement il y a de la place, mais il y a de la place pour nous accueillir tous dans notre diversité. Parce que Dieu est un Dieu d'accueil. C'est un Dieu inclusif et non pas exclusif. Il y a beaucoup de place. Dans une autre parabole, Jésus disait, le royaume des cieux, c'est semblable à un filet qui est jeté sur l'océan, la mer, et qui rassemble les poissons de toutes les espèces. Encore une fois, diversité. Et puis il dit, sinon je vous aurais pas dit que je vais vous préparer de la place. Si je m'en vais pour vous préparer de la place, je reviendrai, je vous prendrai auprès de moi pour que là où moi je suis, vous y soyez aussi. Donc il y a beaucoup de place pour accueillir un peuple diversifié. Apaisez-vous, la peur est mauvaise conseillère, vous le savez bien, parce qu'elle est à la source de toutes les violences et de toutes les volonté de domination, volonté de prendre la place de Dieu. C'est la peur qui nous mène à la violence. Élargissez votre cœur. Voilà le message que j'ai collecté au travers de ces 12 pierres. Élargis l'espace de ta demeure, comme disait Dieu au travers d'Ésaïe. Enfonce profondément tes piquets. Il ne s'agit pas de perdre son identité, mais il s'agit de ne pas ménager l'étoile de nos demeures pour accueillir toute cette belle diversité que Dieu veut voir manifester. Alors, nous serons dans le royaume de Dieu. Amen. Amen.